la prochaine. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mercredi 11 mai 2022 avec vous Eric Mangakiza
et Yacouba Ouidraougou. Voici d'abord les sommaires.
Au Mali, manifestation d'une centaine de personnes à Bamako pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel.
Au Sénégal, l'État distribue des aides face aux effets des crises mondiales.
Le président Biden promet de tout faire pour lutter contre l'inflation.
Et puis le premier vote au Congrès américain sur une enveloppe de 40 milliards pour l'Ukraine.
Au moins 148 personnes tuées par des gangs en Haïti depuis fin avril.
Dans 10 minutes, vous suivez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Lancement hier mardi à Dakar par le président sénégalais Macky Sall d'un programme d'allocation financière pour plus d'un million de ménages démunis afin de les aider à faire face aux effets de la guerre en Ukraine et de l'épidémie de Covid-19. Nanit Talani.
Apporter des solutions à la conjoncture défavorable, j'ai décidé du soutien à la résilience de 542 956 ménages pour recevoir de la part de l'État un cash transfert financier exceptionnel d'un montant de 43,4 milliards de francs CFA, a déclaré le président Macky Sall lors d'une cérémonie au Grand Théâtre de Dakar. L'objectif visé est de donner 80 000 francs CFA à chaque ménage et améliorer leur niveau de consommation et l'éducation de leurs enfants, a ajouté le président Sall, qualifiant l'opération de mesure d'urgence exceptionnelle. Les autorités sénégalaises précisent que l'État va utiliser des paiements mobiles pour le transfert de fonds aux ménages pauvres que comptent les plus de 17 millions d'habitants du Sénégal. Les fonds servant à financer cette opération sont issus d'un projet de la Banque mondiale avec d'autres bailleurs dont l'Allemagne et le Royaume-Uni, indique l'institution financière. Depuis le début de la guerre en Ukraine, fin février, les cours du pétrole et des produits alimentaires se sont envolés sur les marchés mondiaux dans de très nombreux pays, dont le Sénégal.
Environ une centaine de personnes, 300 selon les organisateurs, ont manifesté mardi à Bamako pour réclamer la levée des sanctions contre leur pays et le retour à l'ordre constitutionnel. La manifestation avait été autorisée par le gouvernement malien.
Le Mali s'engage à développer la coopération militaire avec le Rwanda en vue de renforcer ses capacités en termes de défense territoriale et de protection des civils. C'est en tout cas l'indication du chef d'état-major des forces armées maliennes, le général de division Oumar Diarra, en visite de travail au Rwanda de Kigali. Le reportage de Jean Damascène Manishimwe.
Accueil du chef d'état-major des forces armées maliennes au début d'un périple de 3 jours au Rwanda. S'enquérir de l'expérience et de l'expertise rwandaise dans tous les domaines militaires est l'un des objectifs de son déplacement, selon le général de division Oumar Diarra.
L'expérience rwandaise, elle est unique. Et la stabilité que nous voyons aujourd'hui au Rwanda, les capacités de projection des forces armées rwandaises, le cas du Mozambique est vraiment impressionnant. Et ce que nous faisons au Mali aussi, pratiquement, nous sommes dans la même lancée. Il s'agit de renforcer nos capacités en mesure d'opérer en autonome et défendre notre territoire et protéger la population et leurs biens.
Confronté à l'instabilité politique et militaire qui tente de surmonter, le Mali attend de la coopération militaire avec le Rwanda, plus de stabilisation de son territoire et de renforcement de ses capacités dans le domaine militaire. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
À son procès à Paris pour participation présumée au génocide des Tutsis en 1994, Laurent Boutibaruta a commencé mardi à retracer 30 ans d'une carrière, selon lui, presque imposée dans la fonction publique.
Jugé depuis lundi pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité, des accusations qu'il conteste, Laurent Boutibaruta souffre à 78 ans de pathologies multiples. Il comparaît libre.
Un record de 39 candidatures a été enregistré pour l'élection présidentielle prévue dimanche en Somalie. A annoncé mardi, le comité parlementaire en charge d'organiser ce scrutin, maintes fois reporté et attendu depuis plus d'un an. Le nouveau chef de l'État sera désigné par les députés et sénateurs réunis à l'aéroport de la capitale Mogadiscio, lieu le plus sécurisé du pays.
Le président sortant Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmadjo est candidat à sa réélection, ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a réussi à réaliser. La Somalie fait face depuis 15 ans à une insurrection des islamistes et radicaux Shabab.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, les prix de l'essence à la pompe ont atteint un nouveau record hier mardi. Le président Joe Biden a affirmé que son administration mettait tout en œuvre pour faire baisser les prix sans faire ralentir l'activité économique. Le point avec Claire Morin-Gibault.
Dans un discours depuis la Maison-Blanche, Joe Biden a assuré que l'inflation était sa plus grande priorité nationale au moment où la hausse des prix pèse sur les ménages et sur sa popularité. Il a toutefois estimé que certaines des racines de l'inflation étaient hors de son contrôle, citant la pandémie du Covid-19 et les effets de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Si ces deux derniers facteurs ne sont pas contrôlables, M. Biden a insisté sur le fait qu'il pouvait agir sur d'autres front et a rappelé que la réserve fédérale joue un rôle primordial dans la lutte contre l'inflation. Il a exhorté le Sénat à confirmer sans délai les nominations de candidats hautement qualifiés qu'il a proposés pour diriger la Fed. L'administration Biden examine aussi la possibilité de lever les droits de douane sur les produits chinois qui avaient été imposés par son prédécesseur Donald Trump en 2018 et qui représentent des surcoûts pour les entreprises américaines qui ne peuvent pas s'approvisionner ailleurs. Les chiffres de l'inflation du mois d'avril doivent être publiés ce mercredi. Les économistes tablent sur un ralentissement comparé au mois de mars.
Toujours aux États-Unis, les décès par arme à feu ont enregistré une hausse historique en 2020, selon un rapport des autorités sanitaires publié hier mardi. Michel Joseph.
Avec 19 350 homicides en 2020, une hausse de près de 35% par rapport à 2029 et 24 245 suicides, ces décès représentent un problème de santé publique persistant et important, indiquent les centres de prévention et de lutte contre les maladies CDC dans leur rapport. Le taux d'homicide s'est établi à 6,1 pour 1000 habitants en 2020, un record depuis plus de 25 ans. La proportion d'homicides a grandi chez les hommes et les adolescents issus des communautés africaines-américaines et amérindiennes. Aucune région des États-Unis n'a été épargnée, même si les homicides ont le plus augmenté dans les comtés pauvres, avec une importante population issue de minorités ethniques. On se suicide aussi dans les régions pauvres et rurales. Le rapport note aussi que le risque de violence est associé aux inégalités de longue date et au racisme. Il cite les tensions dans les relations entre la police et le public en référence aux manifestations contre les violences policières après le meurtre de George Floyd en mai 2020. L'achat d'armes à feu a connu un record avec 23 millions d'armes vendues en une seule année dans le pays.
Le Congrès américain a franchi mardi une première étape vers le déblocage d'une nouvelle enveloppe de près de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine.
Avec ce programme d'aide, l'Amérique envoie au monde entier le signal de notre détermination inébranlable à soutenir le peuple courageux d'Ukraine jusqu'à la victoire contre Moscou, a souligné Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants. Ce paquet doit désormais être voté au Sénat avant d'être promulgué par le président Joe Biden.
La chef du renseignement américain Avril Haines a prévenu mardi que Vladimir Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, misant sur un essoufflement du soutien occidental à Kiev lorsque les pénuries de biens alimentaires et la hausse des prix de l'énergie vont s'aggraver.
Le sénateur républicain Lindsey Graham et démocrate Richard Blumenthal ont franchi une étape supplémentaire mardi dans la riposte contre Moscou. Ils ont dévoilé une résolution qui exhorte le chef de la diplomatie américaine à inscrire la Russie sur la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme. 4 pays aujourd'hui figurent sur cette liste, Cuba, l'Iran, la Syrie et la Corée du Nord.
Au moins 148 personnes ont été tuées entre fin avril et début mai dans le nord de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, en proie à des affrontements entre deux gangs rivaux, a annoncé mardi une organisation de défense des droits humains.
Dénonçant un massacre d'une cruauté inouïe, le Réseau national de défense des droits humains indique que, dans son rapport, que des personnes ont été tuées par BAD ou l'armée blanche.
D'autres victimes ont été brûlées vives à l'intérieur même de leur maison incendiée ou dans les rues avec des pneumatiques.
Les femmes et filles assassinées ont pour la plupart été violées avant, rapporte l'Association de défense des droits humains.
Au moins 9000 habitants de ces quartiers devenus théâtre de cette guerre de gangs ont fui leur maison et se sont réfugiés chez des proches ou dans des sites temporaires tels que des églises et des écoles.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Maintenant, votre actualité économique en Afrique et ailleurs. Suivez la Minute Éco signée Mohamedou Oumfa.
Le président sénégalais Macky Sall a lancé mardi à Dakar un programme d'allocation financière pour plus de 540 000 ménages démunis afin de les aider à faire face aux effets de la guerre en Ukraine et de l'épidémie de Covid-19. Ces ménages recevront de la part de l'État environ 43 milliards de francs CFA, soit 80 000 francs CFA par ménage, qui les aideront à améliorer leur niveau de consommation et l'éducation de leurs enfants, selon le président Sall. La Namibie a lancé lundi le projet de modernisation de la route qui relie Windhoek à l'aéroport international Osea Kutako. Le projet comprend la construction en 3 ans d'une autoroute à 2 voies de 21,3 km, de 3 échangeurs et de 2 ponts. La Namibie aspire à devenir un important centre de transit vers et depuis ses voisins enclavés de la SADC et la Chine nous aide grandement à étendre notre réseau routier, a affirmé le ministre namibien des Transports, cité par l'agence Chine Nouvelle. Aux États-Unis, le président Joe Biden a une nouvelle fois promis mardi de tout faire pour juguler la hausse des prix qui pèse sur les ménages et sa popularité. Reconnaissant qu'il n'a pas de prise sur la guerre en Ukraine et la pandémie de Covid-19, il a martelé qu'il pouvait agir sur d'autres fronts. Il a exhorté le Sénat à confirmer sans délai les nominations des candidats qu'il a proposés pour diriger la Banque centrale américaine. La banque a commencé à relever ses taux directeurs pour ralentir la consommation et l'investissement.
Nous passons directement à votre page des sports ce matin. Nanit Sylvanit à l'année avec vous. Bonjour Nanit.
Bonjour Eric. Bonjour à tous. La liste de 27 joueurs de la sélection mauritanienne pour les prochaines qualifications du championnat d'Afrique des Nations est connue. Ils devraient participer à un stage de 3 jours du 11 au 13 mai à Nouakchott, la capitale, pour commencer leur préparation des qualifications du CHAN qui se tiendra du 8 au 31 janvier 2023 en Algérie. Le nouvel entraîneur des Mourabitounes, Amir Abdou, a fait appel à plusieurs joueurs qui ont déjà évolué en sélection nationale, comme Sidi Cheikh Maatala, Emeya Tanji et l'international gardien Babacar Diop. L'UEFA réforme sa Ligue des champions qui débutera à partir de 2024-2025 par un mini-championnat de 8 journées avec 36 équipes contre 32 actuellement, a tranché mardi l'instance du football européen à l'issue de la réunion de son comité exécutif à Vienne. Pour les 4 places supplémentaires créées par le passage de 32 à 36, une place ira au club classé 3e du championnat de l'association, une autre sera attribuée à un champion national en faisant passer de 4 à 5 le nombre de clubs qualifiés. Les 2 dernières places reviendront aux 2 meilleures nations européennes sur la saison précédente. L'accès basé sur les coefficients du club est supprimé. Par ailleurs, l'UEFA a acté qu'à partir de la finale, tous les matchs continueront de se jouer en milieu de semaine. La Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence sont également concernées par cette réforme avec un format calqué sur celui de la nouvelle Ligue des Champions. Terminons par les Émirats Arabes Unis qui accueillent en octobre les équipes de Milwaukee et Atlanta pour 2 matchs de pré-saison de NBA. Ce sera une première au Moyen-Orient selon une annonce faite ce mardi par la Ligue nord-américaine de basketball. Les rencontres entre les Bucks, champions en titre de NBA, et les Hawks auront lieu dans la capitale Abu Dhabi les 6 et 8 octobre. Ces matchs font partie d'un accord pluriannuel entre la NBA et le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi. Aucune rencontre de pré-saison n'a été jouée en dehors de l'Amérique du Nord depuis 2019 en raison du Covid-19.
C'était les sports avec Nanit Sylvani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakidza de retour avec vous, place au dossier du jour. La COP 15 se poursuit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après le sommet des chefs d'État et de gouvernement sur le thème sécheresse et restauration des terres, le président ivoirien Alassane Ouattara a proposé à ses pairs un nouveau plan d'action pour répondre aux problèmes de désertification et de sécheresse. Le compte-rendu de Delphine Boys, notre correspondante à Abidjan.
L'initiative d'Abidjan ou Abidjan Legacy Programme est une nouvelle approche du président ivoirien pour consolider les acquis d'un développement durable face aux difficultés de la dégradation des sols. Alassane Ouattara.
En réponse aux défis de la sécheresse et de la restauration des terres, mon pays a élaboré un important programme dénommé l'initiative d'Abidjan ou Abidjan Legacy Programme. Ce programme dont la vocation est de permettre à la Côte d'Ivoire d'intégrer dans ses stratégies de développement, les approches de gestion durable des sols et de restauration de nos écosystèmes forestiers fortement dégradés nécessitera pour sa mise en œuvre la mobilisation de 1,5 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années. Je porte personnellement cette initiative avec l'espoir qu'elle inspirera d'autres pays en Afrique et dans le reste du monde.
Mais quelles sont les composantes de cette initiative d'Abidjan? Lucien Dibi est membre du comité scientifique de la COP 15 et docteur en agronomie.
L'initiative d'Abidjan a 4 grandes composantes. La première composante, c'est de lutter contre la déforestation et de restaurer les forêts et les paysages qui sont déjà dégradés. La deuxième composante porte sur l'intensification durable de notre agriculture. La troisième composante, c'est de rendre les chaînes de valeur agricoles existantes plus durables et sans empreinte sur la forêt. Et la quatrième composante porte essentiellement sur l'identification de chaînes de valeur qui soient les chaînes de valeur du futur.
Les partenaires au développement s'engagent à accompagner cette initiative. Maria Elena Semedo, directrice générale adjointe de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation.
Le Fonds pour l'environnement a pris en charge le financement du volet la gestion des connaissances de ce grand programme-là pour un montant de 2 millions de dollars, soit environ 1 milliard 200 millions de francs CFA.
La BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement, n'est pas en reste. Son patron est Serge Ekoué.
La Banque Ouest-Africaine de Développement contribuera pour un montant global de près de 370 milliards de francs CFA, un petit peu moins de 600 milliards de dollars, à l'Abidjan Legacy Programme.
Ainsi, tout le monde met la main à la poche pour réveiller un peu la planète qui meurt de la déforestation et de la dégradation des sols. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Togo, le gouvernement a procédé à une nouvelle hausse des prix des produits pétroliers dans les stations-service à partir de ce mardi. L'essence sans plomb passe de 595 francs CFA à 625 francs CFA. Le gasoil subit une hausse de 55 francs CFA et se vend désormais à 660 francs CFA. La dernière hausse des prix des produits pétroliers est intervenue le 29 mars dernier. Le gouvernement invoquait le prix du baril du pétrole sur le marché international pour justifier cette hausse. De Lomé, la correspondance de Kossi Wusu.
En l'espace de 40 jours, le gouvernement a procédé à deux hausses consécutives des prix des produits pétroliers. Une situation qui laisse sans voix les Togolais. Comme un taximan dans la capitale togolaise ne sait plus à quel fin se vouer.
Il y a un mois, ils ont augmenté. On a crié qu'ils vont nous tuer. Ça n'a pas suffi. Et ils viennent d'augmenter encore. C'est qu'ils veulent nous enterrer. Vraiment, on ne comprend plus rien. Trop, c'est trop. On ne peut plus tenir.
Sur le grand contournement de Lomé, à la périphérie de la ville, beaucoup de motocyclistes et de conducteurs de voitures s'arrêtent au bord de la route pour s'approvisionner avec de l'essence frelatée. Francis, un usager de la route, se dit obligé de procéder ainsi.
C'est l'essence prélatée qui va nous sauver maintenant. Tu prends 2000 francs pour payer 3 litres d'essence. Où peux-tu aller avec ça? Ici au moins, il reste sur l'ancien prix. Comme ça, tu gagnes 30 francs sur le litre. Ça peut faire quelque chose.
Dans un communiqué, le gouvernement indique que, nonobstant cet ajustement, le montant global de la subvention pour le mois de mai 2022 est estimé à 12 milliards de francs CFA. Maintenant, ainsi, le soutien au pouvoir d'achat. Jean-Baptiste, de l'Association des usagers des services publics du Togo, n'est pas d'accord avec cette pratique des autorités qui souffrent de transparence.
Je crois que le gouvernement est dans un mauvais rôle en donnant toujours l'information aux populations comme quoi ils subventionnent les produits pétroliers. Depuis longtemps, il y a beaucoup de structures de la société civile qui ont exigé du gouvernement la transparence, c'est-à-dire la vérité dans la structuration des prix des produits pétroliers. Mais depuis, cela n'a pas été un acquis. Donc, beaucoup d'organisations de la société civile se plaignent toujours qu'il n'y a pas de transparence dans la fixation de ces prix. Donc quand le gouvernement dit aujourd'hui que les produits sont toujours subventionnés, on n'a pas la preuve. Donc on ne peut pas croire à un gouvernement qui ne joue pas le jeu de la transparence.
Abondant dans le même sens, le député de l'opposition, Diri Tama, relève sur sa page Facebook que le gouvernement, en disant qu'il met environ 12 milliards pour amortir les prix actuels, on est en droit de se demander combien coûterait le carburant sans la subvention. 12 milliards le mois, ça fait 144 milliards par an, soit environ 9% du budget national. La subvention des produits pétroliers serait la première dépense de l'État. À ce coût, il faudrait se résoudre à se déplacer à vélo si on veut développer le pays, ironise-t-il. Kossi Oussou, Lomé, pour VOA Afrique.
Abdelrahmania avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la guerre en Ukraine et l'urgence d'une sécurité alimentaire en Afrique. Ce conflit qui oppose deux des plus grands exportateurs de blé dans le monde a mis en exergue la dépendance alimentaire du continent à l'extérieur, poussant décideurs et experts à appeler à une production locale plus importante de produits de base comme les céréales. Le FMI alerte même sur les risques de troubles sociaux en Afrique en raison de la flambée des prix alimentaires dus aux produits en Ukraine. Comment l'Afrique peut-elle réduire sa dépendance alimentaire? Rendez-vous ce jeudi à 19h universelle sur VOA et VOA Afrique.com.
La cybercriminalité a coûté plus de 6 000 milliards de dollars au monde l'an dernier. C'est ce qu'a révélé Alessandro Profumo, patron du géant italien de l'aéronautique et de la défense. Leonardo, citant une enquête de l'Association italienne pour la sécurité informatique. Une situation d'autant plus critique qu'il existe un manque d'experts en sécurité informatique. Comment évalue-t-on les pertes subies par les entreprises dues à la cybercriminalité et quels risques pour les entreprises? Abdelrahman Dia a posé la question à Shekina Ahmed Diouf, responsable de la sécurité informatique du groupe Randstad France.
À titre comparatif, 6 000 milliards de dollars, c'est le cumul du chiffre d'affaires des 10 plus grandes entreprises au monde. C'est également 12 fois le fonds souverain saoudien. Donc l'impact est colossal. Pour répondre à votre question, il y a plusieurs critères qui entrent en compte pour arriver à cette estimation. En plus de la perte d'activité, donc de business, on va évaluer des coûts induits par l'incident en réalité, c'est-à-dire évaluer les moyens humains, financiers, matériel et logistique à son frontière afin de revenir à la normale. En agrégeant l'ensemble de ces estimations pour les entreprises ayant subi une cyberattaque en 2021, en fait, on arrive au chiffre qui a été communiqué par le patron de Leonardo, soit les 6 000 milliards de dollars en question.
Alors, la pandémie de COVID-19 et l'accélération de cette numérisation qui a été donc une nécessité, sont considérés tout de même comme des dommages collatéraux de cette activité criminelle. Cela veut-il dire que les compagnies, les entreprises n'étaient pas préparées?
Préparées à la digitalisation, si. En revanche, préparées à cette transition qui s'est accélérée, fondamentalement, non. D'une part, on assiste à une pénurie des sachants en cybersécurité. Alors, la réalité, c'est que les entreprises ont d'énormes difficultés à trouver la bonne expertise, la bonne personne au bon moment. D'autre part, la pandémie de COVID-19 ne nous a pas, en tant qu'acteurs de la cybersécurité, bien évidemment, laissé le temps d'accompagner la transition digitale des entreprises comme il se doit. Résultat, on assiste à une hausse considérable de ce que j'appelle l'industrie de la malveillance cyber qui atteint des dommages records.
Alors, rien que pour l'Europe, on parle de dizaines de milliers de personnel que cela nécessite pour faire face à la cybercriminalité. Comment est-ce qu'on peut combler ce gap?
Il est difficile aujourd'hui, vu l'expertise que requiert la cybersécurité, de pouvoir staffer en évaluant la qualité des ressources comme on l'aurait fait auparavant. En revanche, il y a de plus en plus d'académies et d'écoles qui se montent au niveau des différents pays. Je pense à la France avec le campus cyber qui a été mis en place pour justement renforcer l'expertise sur ce domaine.
Alors, avec cette vulnérabilité de beaucoup d'entreprises, comment gagner la confiance des consommateurs, surtout dans le domaine bancaire, par exemple? Est-ce qu'il faut s'inquiéter?
Disons qu'il n'y a pas pour moi plus d'inquiétude à avoir qu'actuellement. Les banques déploient des mesures qui sont quand même considérables pour faire face aux cyberattaques. Et ils sont appuyés dans cette démarche fortement par les États, avec plusieurs directives visant à rehausser le niveau de sécurité globale. Par contre, on pourrait se demander si les États ne devraient pas consentir plus de moyens pour renforcer la résilience, parce qu'il s'agit d'une problématique de souveraineté avant tout. Je pense au Canada, notamment, qui a créé un ministère dédié à la cybersécurité. Et on en est à l'aube d'un mouvement d'ampleur qui va se déclencher au niveau des différents États.
C'était Cheikhina Ahmed Diouf, joint à Paris. Alors que le monde a franchi cette semaine le cap de plus de 15 millions de décès du COVID-19, dont plus d'un million aux États-Unis, des chercheurs américains font le bilan de ces deux dernières années. Le reportage de Laurel Bowman, récit signé Claire Morisbourg.
L'Amérique vient de franchir le cap d'un million de morts du COVID-19. Des chercheurs américains se penchent sur ces deux dernières années, analysant plus précisément les données sur ces décès. Ils affirment que les minorités ont été durement touchées, y compris les jeunes dont les emplois les avaient forcés à être au contact de personnes avant qu'une grande partie de la population ne soit vaccinée. Au début du Covid-19 aux États-Unis, les décès ont eu lieu d'abord dans les villes, puis le virus s'est propagé à des zones rurales. Les autorités ont tardé à organiser une réponse nationale. Ceci, combiné à la désinformation sur les vaccins, a empêché de nombreuses personnes de se faire vacciner. Le docteur George Benjamin est directeur exécutif pour l'American Public Health Association.
Il est vrai que nous avons fait ces recherches et produit des vaccins en un temps record, mais cela faisait plus de 20 ans que ces coronavirus étaient étudiés. Donc, nous avons pu créer un vaccin relativement vite, et parce que cette information n'a pas été transmise correctement, beaucoup de personnes ont pensé que des étapes avaient été sautées, mais c'est faux.
D'autres experts affirment que les services locaux de santé à travers le pays étaient mal préparés à une pandémie. Le docteur Tom Frieden est le président de Resolve to Save Lives, soit déterminé à sauver des vies, une organisation qui vise à rendre le monde plus sûr contre les pandémies.
There is no question.
Il ne fait aucun doute que nous récoltons les fruits de décennies de sous-investissement dans la santé publique au niveau national, étatique, municipal et local aux États-Unis ainsi qu'à l'échelle mondiale.
Dans le monde, plus de 15 millions de personnes sont mortes du COVID-19. De nombreux experts disent que nous traversons le pire de la pandémie aux États-Unis. Entre 60 et 70% de la population américaine a été vaccinée contre le Covid-19 et un nombre similaire a été infecté, ce qui leur confère une certaine immunité. Mais les experts disent qu'à mesure que le virus évolue et mute, des rappels continus peuvent être nécessaires pour que la vie puisse reprendre comme avant.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Fatouma Kalala Alimassi pour la production et la mise en onde de cette édition. À la présentation, Eric Manila-Kiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24 sur voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la